Salut à tous, c'est Skydog et bienvenue pour ce tout premier épisode de Rocambolesque, l'émission qui retrace l'histoire du rock. Alors aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, on se retrouve pour parler de Britpop. Alors quand on parle de ça, on pense très vite à la rivalité entre Oasis et Blur et au retour sur le devant de la scène du rock anglais. Mais vous en doutez, tout ça, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Aujourd'hui, on va revenir sur les origines de ce genre, parler de leur impact et écouter quelques morceaux de pop britannique. Allez, générique.
Non mais y a plus de rock, y a plus de rockeur, y a plus de rockeur, faut être honnête.
You'll never look at music the same way again.
Exceptionnel. Alors, pour la Britpop, on va commencer en 1992. Cela fait plusieurs années que la scène musicale britannique était en quête d'identité dans ces années-là. La jeunesse anglaise ne s'identifiait pas aux nouveaux sons importés des États-Unis diffusés à la radio. L'un des éléments déclencheurs de la Britpop, ça a été la percée du son grunge porté par Kurt Cobain. En effet, les jeunes anglais y cherchaient un son auquel s'identifier, mais la musique grunge, ça leur parlait pas du tout. Au même moment, il y a trois jeunes étudiants en art du sud de Londres qui cherchent à remettre le son britannique au devant de la scène. Ils s'appellent Justin Frischman, Brett Anderson et Damon Albarn. Ces trois jeunes étudiants, ils tirent leur inspiration des rebelles britanniques comme les Beatles, les Rolling Stones ou Pink Floyd. Et les jeunes londoniens iront également puiser du côté du glam rock de David Bowie ou Queen. Cela fait plus de déjà 3 ans que ces jeunes musiciens avaient la possibilité de suivre la percée de groupes anglais comme The Lazz ou les Stone Roses, et ils sont tous inspirés par la carrière musicale de Paul Weller. C'est en entendant ce genre de son qu'ils auront la confirmation que la domination musicale britannique est possible. On écoute donc tout de suite les Stone Roses, l'inspiration musicale principale des artistes de la Britpop. C'est parti. c'était I Wanna Be Adored des Stone Roses. Et comme je vous le disais, c'est totalement le genre de son que les jeunes britanniques écoutaient quand ils allaient du coup en concert. C'est totalement le genre de son début des années 90 qui a inspiré la Britpop. Et donc, évidemment, les jeunes artistes britanniques, ils étaient guidés par cette confiance dans un avenir musical anglais. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était un retour sur le devant de la scène de la pop anglaise. Donc, il y a beaucoup de jeunes musiciens britanniques qui décident de franchir le pas et de former leur groupe à ce moment-là. On a par exemple Justin Frischmann, dont on parlait juste avant, qui quittera le groupe Suède, qui était porté par Brett Anderson, et elle formera Elastica. De son côté, Damon Albarn, qui était déjà leader du groupe Blur, il décidera de prendre le train en cours de route et il donnera une nouvelle direction à sa musique. Ainsi, le deuxième album du groupe, Modern Life is Rubbish, ce sera un opus qui critiquera l'homogénéité de l'industrie musicale et notamment dans le single Pop Scene, il annonce l'arrivée d'un nouveau genre du rock alternatif, la Britpop. On écoute tout de suite Pop Scene. C'était Pop Scene de Blur, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça bouge. Et c'est totalement ce que se disaient les jeunes britanniques à ce moment-là, ils se disaient « waouh, franchement pas mal ». Donc à ce moment-là, en Angleterre, on a donc d'un côté le groupe Blur, qui commence à prendre une direction plutôt intéressante, mais dans la même période, plus au nord de l'Angleterre, du côté de Manchester, vous me voyez arriver, c'est le groupe Oasis qui portera à sa manière un nouveau son. Le groupe s'appelait à la base « The Rain ». Et c'est lorsque Liam Gallagher rejoint le groupe, après avoir été auditionné, que celui-ci propose un changement de nom. Ils étaient alors, selon leur propre dire, un groupe qui faisait du tapage avec 4 morceaux. Mais c'est lorsque Noel Gallagher, le frère aîné de Liam, décide de rejoindre le groupe que celui-ci a pris une autre dimension. Ça faisait plusieurs années que Noel écrivait des chansons, et avec le groupe de son frère, il avait vu l'opportunité de donner vie à ses textes. Et c'est donc à ce moment-là qu'Oasis se crée sous la forme que l'on connaît. S'ensuit alors une série de concerts dans toute l'Angleterre qui permettra au groupe de se faire un nom. Mais c'est en mai 1993, lors d'un concert à Glasgow, qu'Oasis sera repéré, ayant ainsi l'occasion de sortir leur premier single, Supersonic, que l'on écoute évidemment tout de suite. C'était Supersonic d'Oasis, et le moins qu'on peut dire, c'est que c'est franchement pas mal. Donc, à ce moment-là, en Angleterre, les jeunes Anglais, ils sentent qu'il se passe quelque chose sur la scène musicale. Évidemment que ça ne portait aucun nom au départ, mais la Britpop, en fait, elle doit son appellation aux médias britanniques. Ce sont eux qui ont accompagné et théorisé ce genre, ils ont suivi son évolution et ont pu en faire un phénomène socioculturel, On est alors en 1994 et petit à petit, la Britpop devient un genre connu du public et qui en redemande. Et c'est durant cette année 94 que Blur explose avec son album Park Life et de leur côté, Oasis y sortent leur premier opus, Definitely Maybe. Mais la Britpop, ce n'est pas que Blur et Oasis. Il y a quelques minutes, nous parlions de Justin Frischmann qui avait décidé en 1992 de quitter le groupe Suède pour fonder Elastica. Eh bien, ils sortiront leur premier album en 95, l'homonyme Elastica. Ce sera un succès puisqu'elle sera l'album le mieux vendu depuis Definitely Maybe d'Oasis. Et en matière de vente, l'album détient le record pendant 10 ans jusqu'à ce qu'il soit surpassé par le premier album des Arctic Monkeys, donc bien plus tard. C'est un album qui a également permis de confirmer la proximité entre Elastica et Blur, puisque parmi les musiciens d'Elastica, crédités sur leur album, se trouve un pseudonyme, se trouve un certain Dan Abnormal, qui est en réalité l'anagramme de Damon Albarn. En réalité, le fondateur de Blur vivait avec Justin Frischmann et aurait participé à la création de cet album, dont on écoute tout de suite l'avant-dernier morceau nommé Never Here. We'll be right back. Voilà, c'était Never Here d'Elastica, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était réellement intéressant à sa sortie. Ce qui était également intéressant à noter avec la Britpop, c'est qu'elle permettait de mettre en lumière une facette de l'Angleterre qui était alors peu exposée. La Britpop raconte la vie des jeunes Britanniques qui n'ont pas grand-chose à faire pour s'occuper, si ce n'est boire, sortir, fumer et écouter de la musique. Et donc, de par leur vision très réaliste de la vie et de la jeunesse, ces groupes apporteront un souffle nouveau sur le paysage musical britannique. Et, contre toute attente, ces jeunes musiciens feront preuve d'un grand patriotisme envers leur pays. Rappelons que leur objectif était de remettre le rock anglais au devant de la scène. Il est donc logique que l'on retrouve l'Union Jack sur des t-shirts ou des guitares, les accents régionaux seront accentués, et les clips auront une esthétique ô combien british. En bref, après la mort de Kurt Cobain et le déclin du grunge en 1994, ce qui est anglais est désormais synonyme de cool. Cet élan de rock britannique permettra à plein de groupes d'émerger. On parlait même alors d'un Big Four composé de 4 groupes, Blur et Oasis, dont on a déjà parlé, Suede et Pulp. Le groupe Pulp est d'ailleurs un peu à part dans ce quatuor, puisque quand la Britpop a commencé à prendre, cela faisait déjà plus de 15 ans qu'ils étaient sur scène. Ils ont donc connu une évolution dans leur musique qui était originellement considérée comme de la New Wave. Mais leur plus gros succès sera en 1995 avec leur album Different Class, qui contient le hit Common People, que l'on écoute tout de suite. c'était Common People de Pulp, sorti en 95. Et c'est d'ailleurs en 1995 que le phénomène Britpop connaît son apogée. À ce moment-là, une rivalité naît. Encouragés par les médias, Blur et Oasis laisseront en effet naître entre eux une véritable compétition. Cette rivalité sera une bataille d'identité, opposant ainsi les londoniens de la classe moyenne aux mancuniens de la classe ouvrière. À ce moment-là, les sons rustiques et l'accent de Manchester d'Oasis contrasteront fortement avec l'esthétique travaillée et artistique de Blur. Jamais on n'avait revu une telle rivalité dans l'industrie musicale depuis les Beatles et les Rolling Stones. Les groupes vont alimenter cette histoire à coups d'interviews et apparitions publiques où l'un charrie l'autre, et le 14 août 1995, pour le plus grand bonheur des médias qui évoquent The Battle of Britpop, Blur annonce la sortie de son titre Country House le même jour que le Roll With It d'Oasis. On va ainsi écouter les deux morceaux d'affilée tels des auditeurs britanniques le 14 août 1995, quand la rivalité entre ces deux groupes était à son paroxysme.
I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it preys on him. It's been too bad, simple. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy.
Country House de Blur et Roll With It d'Oasis le même jour, le 14 août 95. Donc comme je vous disais, c'était vraiment considéré comme The Battle of Britpop. Et pour l'anecdote, c'est Blur qui sortira vainqueur de cette bataille. En termes d'audience et en termes de vente de singles, c'est eux qui, ce jour-là, auront remporté cette bataille. Même si, d'une manière générale, on considère que c'est plutôt Oasis qui a remporté la Britpop d'une manière générale. C'est eux qui ont été le plus marquants dans ce sous-genre du rock. Et d'ailleurs, pour la Britpop, en fait, on considère que son âge d'or se situe grosso modo entre la sortie de Park Life de Blur en 94 et celle de Be Here Now d'Oasis en 97. Entre les deux, c'est la folie. Hein. Une avalanche d'outsiders qui prennent d'assaut le devant de la scène indépendante avec un seul mot d'ordre, conquérir le monde et le faire savoir. La modestie, c'est pas vraiment la première caractéristique des groupes issus de cette période. Et c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes, particulièrement présentes durant cette période. Sonia Aurora Madam, du groupe Echo Belly, Louise Venner, de Slipper, Sarah Cracknell, de Saint-Etienne, ou, nous en parlions plus tôt, Justine Frischmann, d'Elastica. C'était vraiment un genre qui a été pris autant par les hommes que par les femmes. Tout le monde a pris le train en marche. Pour l'industrie, à ce moment-là, c'est le paradis. Chaque semaine, une des journaux musicaux affirme avoir trouvé la nouvelle sensation et les maisons de disques n'ont qu'à se baisser pour ramasser. L'argent coule à flot et les deals se font plus ou moins n'importe comment en signant des contrats avec des groupes qui souvent n'ont même pas un semblant de projet de carrière. Malgré toute cette spéculation musicale, de nombreux projets très construits et travaillés arriveront à voir le jour. C'est ainsi qu'en 1996, le groupe Suède sortira leur troisième album. Le contexte était un peu particulier pour ce groupe qui avait connu une déception commerciale avec leur précédent album et le départ de leur guitariste Bernard Butler. C'est donc face à ces complications que Brett Anderson a décidé que le troisième album de son groupe serait plus simple. L'objectif était d'atteindre le plus de gens possible et ce sera un succès. Le groupe qui affiche clairement des inspirations de David Bowie verra leur album Coming Up être comparé au Ziggy Stardust de Bowie, ce qui était pour eux évidemment le meilleur compliment possible. Cet album verra 5 singles faire leur entrée dans le top 10 des charts britanniques. Parmi ces singles, on retrouve le morceau Trash que l'on écoute tout de suite, suivi de Bittersweet Symphony dont nous parlerons juste après.
Maybe it's a cool looking ass.
On vient donc d'écouter Trash de Suède, suivi de Bittersweet Symphony de The Verve. Alors, Bittersweet Symphony, il faut se dire que c'était le premier vrai succès du groupe qui avait pourtant pris le train de la Britpop depuis le début. En effet, ils faisaient d'ailleurs des concerts avec Oasis dès 1993, mais eux, ils n'avaient pas rencontré le même succès. Ils n'ont pas rencontré le succès du tout, en fait, avant 1997. Ils ont donc dû attendre la sortie de leur album Urban Hymns avant de connaître un succès commercial, et le titre Bittersweet Symphony sera un véritable hit. Mais il connaîtra aussi une polémique. En effet, The Verve sera poursuivi par les Rolling Stones, qui les accusera d'avoir trop utilisé la version orchestrale de leur titre The Last Time. Et le fait que les paroles de la chanson aient été bien écrites par le chanteur de The Verve, Richard Ashcroft, ne changera rien. The Verve perdra les droits d'utilisation de sa chanson pendant 20 ans. cette chanson sera considérée comme l'une des dernières du genre Britpop qui commençait vraiment à toucher à sa fin puisque les gens commençaient à être lassés, mais il y a plusieurs choses qui sont venues mettre fin à cette mode. Ça peut aller des Spice Girls à la mort de Lady Di en 1997, qui a un peu coupé l'élan de patriotisme britannique, et on peut aussi expliquer ça à la sortie de OK Computer de Radiohead, qui éclaira le savoir-faire anglais d'encore plus de respectabilité. Depuis les années 2000, la Britpop a évolué. Elle s'est affinée, elle s'est trouvée de nouveaux représentants, Star Sailor, Elbow, pour ne citer que cela, et même Coldplay, d'une certaine façon. Mais en tout cas, on n'a jamais revu un tel élan de musique britannique dans la même période qui avait atteint autant de personnes. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, on se retrouve dans deux semaines, salut à tous, je vous laisse justement avec la fin de la Britpop, Radiohead donc, Paranoid Android, sorti en 1997. C'est parti.